Chaque mois sur RCF, trois journalistes et Charles Leclerc vous donnent rendez-vous pour un débat, quatre critiques cinéma, sans coup. Voici les 400 coups.
Dernière émission de l'année, une émission spéciale Cannes, 70e année de Cannes, avec non pas trois invités, mais quatre invités. J'accueille tout d'abord Elie Mastorou. Elie, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, Astrid Janssens. Bonjour Astrid.
Bonjour.
Olivier Clincard. Bonjour.
Bonjour Charles.
Et Mathieu Reinhardt. Bonjour.
Bonjour Charles.
Bon, Elie, on vous a déjà reçu dans une émission Cinécure pour parler de la place de la femme dans le cinéma. Aujourd'hui, vous êtes toujours journaliste à Métro, L'Avenir, Marie-Claire, Alphabeta Magazine.
Tout à fait.
Astrid, vous travaillez, vous êtes journaliste à L'Avenir, pour aussi un site web qui s'appelle pub.be.
Oui.
Et également, m'avez-vous dit, pour les fiches du cinéma, c'est français.
C'est exact, oui, à Paris.
À Paris. Mathieu, vous êtes journaliste pour Focus Vif.
Oui.
Et Olivier, vous êtes journaliste à Moustique, vous êtes aussi pour Cinéma Belge. Et on rappelle à vos auditeurs que vous avez été longtemps président de l'Union de la presse de l'UCC et vous en êtes vice-président.
C'est bien exact.
Vous avez été tous les quatre à Cannes, je n'y étais pas. Donc on propose à nos auditeurs de faire une rencontre entre nous à bâton rompu sur le Festival de Cannes. J'ai commencé par vous, Olivier. Quel est votre sentiment par rapport à cette session au palmarès ?
Eh bien écoutez, commençons peut-être par le commencement, c'est-à-dire par la récompense suprême qui est allée au film The Square. Je pense que pour une palme d'or, c'est une palme d'or qui ne s'écrit pas tout à fait de la même manière, à savoir D'OR, mais plutôt D-O-R-T. C'est en tout cas la sensation que m'a laissé ce film très long, de 142 minutes, et qui a à mes yeux un film pompeux et pompant, qui ravira probablement les adeptes de la masturbation intellectuelle, mais ils seront probablement bien les seuls. C'est un film qui parle de l'art contemporain, et ça met en vedette un conservateur d'un musée d'art contemporain qui veut initier un concept qui s'appelle The Square, c'est-à-dire une sorte de carré lumineux installé sur une place, et qui est censé représenter une zone de tolérance et de diversité. Et il va arriver plein de choses à ce directeur de musée qui va lui faire remettre un petit peu en question ses conceptions. Le fait que la Palme d'Or soit allée à ce film-là est pour moi une grande déception, parce que je pense qu'il y avait dans la sélection d'autres titres qui méritaient bien plus cette récompense. Je pense au film d'Andrei Zvyagintsev, le réalisateur russe. Dont
qui avait
parlera,
fait Le Retour et Le Bannissement,
bien
notamment.
Sûr, et Le Brillant Léviathan aussi. Et son film, qui s'intitule Loveless en anglais, méritait selon moi beaucoup plus cette récompense suprême, parce que je l'ai trouvé beaucoup plus complet artistiquement, à tout point de vue, au niveau de la mise en scène, de l'interprétation, du scénario. Et cette Palme d'Or a surpris, je crois, beaucoup de gens, et moi y compris. On va probablement en reparler un peu plus en détail avec nos confrères.
Qu'en pensent les autres ? Qui veut parler le premier ou la première ? Mathieu ?
Alors, oui, comme ça, je vais commencer tout de suite sur les chapeaux de roue, puisque je ne suis pas d'accord du tout avec Olivier. Non, alors, The Square, c'était certes pas ma Palme d'Or, mais je trouve franchement que c'est un film qui l'a pas volé ce prix. En fait, je l'ai pas du tout eu la même lecture que vous, Olivier. Je pense pas que ce soit un film sur l'art contemporain, mais un film plutôt sur la lutte des classes et sur un directeur de musée qui est complètement en fait coupé du monde, coupé de la réalité, qui pense, grâce aux œuvres d'art qu'il promeut, il pense délivrer un message, faire quelque chose d'important, et puis qui se rend compte qu'en fait il vit complètement en décalage avec les valeurs qu'il profère, notamment à travers cette installation The Square, qui est finalement trois bandes blanches à l'intérieur desquelles nous sommes tous égaux et on peut s'aider et c'est formidable. Et puis on continue de voir cet homme dans le film n'est pas très, où là je peux comprendre qu'il soit un petit peu ennuyeux pour certains, mais il n'est pas très narratif. C'est une suite de séquences qui n'ont pas forcément un lien les unes avec les autres, même si chronologiquement c'est suivi, mais on voit bien que cet homme, est, ne serait-ce que pour aller à son travail, passe toujours à côté des mendiants, ne leur adresse jamais un regard. À un moment, il perd son téléphone, il pense qu'il a été volé par quelqu'un qui habite dans un HLM, et il n'ose pas rentrer dans les HLM parce qu'il a peur des pauvres. Enfin, c'est vraiment tourné à la dérision, et j'ai trouvé ça plutôt très drôle. Moi, je ne me suis pas ennuyé du tout.
Mais écoutez, oui, pour enchaîner, moi je me situe un peu entre les deux parce que je suis d'accord, je trouve que le film est trop long, clairement d'une demi-heure au moins, que le réalisateur arrive au bout de son propos, parce que son propos effectivement je pense que c'est ça, c'est le manque d'empathie, c'est le fossé qu'il y a entre voilà la volonté qu'on a d'être quelqu'un de bien, d'aider les autres et de professer des belles choses, mais qu'après concrètement c'est pas si facile que ça, et c'est un film qui questionne beaucoup. Mais je trouve que c'est un film qui atteint très vite ses limites, les limites de son message. Et le message est pertinent, mais je trouve qu'effectivement, il y a un côté didactique et démonstratif dans lequel il s'enferme un petit peu. Mais je trouve que c'est un film qui vaut définitivement la peine d'être vu, parce que Ruben Östlund, c'est un réalisateur qui, justement, comme dans son film précédent, qui s'appelait Force Majeure, Touriste, qui était pour moi un film splendide et très très fort, et pour le coup un peu long aussi, mais plus ramassé, qui à nouveau visait une seule chose, c'est nous faire réagir, nous faire questionner en tant qu'être humain, en tant qu'être sociaux, sur les relations qu'on a entre les autres. Et moi, c'est un film qui m'a fait énormément réagir. C'est un film qui cherche beaucoup à nous mettre mal à l'aise. Et j'ai été très mal à l'aise. J'ai ri. J'ai pas compris. J'étais vraiment dans mon siège. Je me tortillais. Enfin, c'est un film qui fait réagir le spectateur. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont très mal réagi et qui ont rejeté très très brutalement le film. J'ai lu. Je pense que Olivier. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. J'ai vu des rejets très très brutaux. Il y a des gens qui ont adoré. C'est un film qui a divisé très très fort. En tout cas, je trouve que c'est un film qui fait débat, qui mérite quand même ce prix.
Astrid.
Oui, alors moi, malheureusement, j'ai une habitude. À Cannes, chaque année, je loupe la Palme d'Or. Je ne sais pas comment je fais, donc je ne l'ai pas vu. Maintenant, j'ai quand même une question, du coup, pour vous qui l'avez vu. J'ai l'impression que c'est une Palme d'Or originale, c'est-à-dire qu'on a un jury qui a vraiment fonctionné au coup de cœur avec un film qui n'est pas du tout étiqueté Cannes, si j'ai bien compris. C'est une comédie, c'est pas un réalisateur auquel on s'attendait. Voilà, je me trompe peut-être, étant donné que je ne l'ai pas vu.
C'est surprenant. C'est vrai que c'est un prix un peu surprenant. C'est quelqu'un qui... C'est un nouveau venu, c'est la première fois qu'il était en sélection officielle. Je pense que le film de Andrei Diaghinsev, dont a parlé Olivier, par exemple, était davantage un film taillé pour ce genre de récompense, film de festival. J'ai entendu beaucoup après du film russe. Ça, c'est une bonne chose.
Film d'auteur classe A.
Voilà. Et c'est assez surprenant, oui. Je ne sais pas vraiment dans quelle case le caser.
Oui, Olivier.
Mais effectivement, on peut dire d'un certain côté, alors c'est bien, ils ont fait preuve d'une certaine audace. Mais est-ce qu'il faut faire preuve d'audace en primant un mauvais film? Moi, j'ai tendance à dire que non. Il y a quelque chose dans le film qui m'a fait réfléchir. C'est que le personnage principal, à un moment donné, il se fait interviewer par une journaliste. Et en gros, il demande à la journaliste, si je prends votre sac à main et que je le mets par terre dans le musée, est-ce qu'on peut considérer ça comme une œuvre d'art? Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'a voulu faire Ruben Östlund avec son film. C'est-à-dire, si je fais un film où je mêle toute une série d'éléments et que j'appelle ça un film, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est une œuvre d'art? Moi, dans ce cas-ci, j'ai plutôt tendance à répondre non. C'est un film qui veut se faire drôle, qui veut se transformer en une satire sur la société et sur ce personnage principal. Pour moi, ça tombe complètement à plat.
Il faudra que les auditeurs... Je propose qu'on passe peut-être à un autre film, à moins que vous n'ayez quelque chose de très, très important encore à dire.
Juste un mot pour souligner, malgré tout, dans ce film, la performance de l'acteur principal, Klaas Bang, je ne sais pas comment on prononce, Bang, qui est... Le film est suédois, mais l'acteur est danois, et j'ai vraiment trouvé cet acteur fascinant, et il a un physique de beau gosse comme ça, mais il projette énormément de choses dans ce personnage conflictuel, complètement tordu entre son discours et puis sa façon d'agir. Et juste pour répondre à Street, moi je dirais plus que c'est une satire, plus qu'une comédie, et du coup ça reste quand même dans le milieu des films de festival.
Ouais. Mais juste quand même pour les auditeurs, la question qu'on se pose, c'est quand même quand est-ce que sort le film en Belgique, est-ce qu'on sait?
Apparemment, il est annoncé pour une sortie probable en 2017, de ce que j'ai vu des informations presse, mais aucune date n'est encore. Ça devrait sortir en 2017.
D'accord.
Le fait qu'il n'ait pas le mot d'ordre.
Histoire quand même que les gens.
Oui. Donc ça sortira, mais dans le courant de l'année, mais aucune date n'est encore fixée.
Mais à ce sujet, on disait satire. Moi, j'ai plutôt envie de dire satire en longueur, vu les 142 minutes de ce film.
Le maître du jeu de mots.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que le réalisateur, dans la conférence de presse d'après Palme d'Or, a déclaré devant devant les journalistes, dont certains comme moi étaient atterrés, que son film était encore trop court et que pour la sortie en salle, dans quelques mois, il allait le rallonger probablement d'une vingtaine de minutes, je vous assure. Et donc voilà, cette director's cut risque d'être aussi extraordinaire que la version initiale qu'on a vue là-bas.
Donc, attendez l'avis de divers critiques, lisez-les. Certains écrivent, d'autres sont en radio, mais voyez leurs avis, écoutez-les et vous ferez votre propre religion. Je propose quand même que, pour ne pas s'attarder sur ce film qui divise, mais c'est une bonne chose qu'il y ait des avis contradictoires, un autre film, peut-être du côté d'Elie ou d'Astrid, un film.
Ben, on peut poursuivre sur, si vous voulez, on parlait du
peut-être un film qui est au cinéma, pour les auditeurs.
Oui, on peut parler du François Ozon.
Voilà, le film de François Ozon qui sort
Les Amants Doubles.
Qui est reparti bredouille de Cannes, qui a aussi beaucoup clivé. C'était une année où les films ont beaucoup divisé, je trouve. Il n'y a pas eu vraiment de coup de cœur. Il y a eu des j'adore et je déteste pour presque tout. Non.
Et ceux qui vous ont lu mercredi, Elie, ont découvert que vous avez fait une interview de François Ozon en posant quelques questions pertinentes qui semblent intéressantes.
Ah oui.
C'était mercredi. Hein, donc.
Oui, tout à fait, dans le journal. Dans le métro de mercredi.
Le plus lu de.
ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement, je lui ai demandé si Jérémy Régnier était son premier choix, parce que j'avais entendu que c'était pas le cas. Et je voulais qu'il le confirme. Il a dit notamment qu'il y a il y a un acteur célèbre dont il a pas voulu nous dire bien sûr qui c'était, mais qui a refusé. Et ça a pas été le seul. Je pense qu'il est, d'ailleurs, comme il a dit, il y a beaucoup d'acteurs qui ont eu peur pour leur virilité.
C'est la masculinité qui était en jeu.
Non. Oui, beaucoup. Il joue avec les genres, il joue parfois un peu maladroitement, je trouve, mais ça a le don de, soulever en tout cas des aspects intéressants de la sexualité. Après, le film le fait bien ou pas, selon certains, je trouve que c'est à discuter.
Il a divisé la critique, en tout cas. Je ne sais pas si vos confrères et consoeurs. Oui, Astrid, allez-y.
Oui, disons que c'est un film que j'ai vu. Disons que c'est un film qui va soit choquer, qui va soit déranger, qui va provoquer le rire aussi, parce qu'à Cannes, certains journalistes étaient hilars. Mais quoi qu'il en soit, que ça marche ou pas, c'est un film qui ne laisse pas indifférent. Et moi, je salue ça vraiment, parce que quand on est à Cannes, on voit beaucoup de films. Et quand on se retrouve avec un film qui vous bouscule un peu, on est content. Donc moi, j'aime bien les nouvelles propositions de cinéma. Et là, c'était intéressant parce que c'est un film très ludique. François Ozon, que j'ai rencontré aussi, le dit lui-même, il joue avec le spectateur, il le manipule et il aime ça. Il le rend actif, en fait. Donc, parce qu'il y a un film dans le film, c'est un thriller psycho-érotique dont l'enquête principale, c'est la psychanalyse d'une jeune femme qui est déprimée. Et donc, on a cette enquête qui est sa psychanalyse. Donc, on ne sait plus très bien quand on est dans la réalité ou dans son inconscient. Et c'est fait exprès. Et donc, j'ai bien aimé ce côté un peu choc.
Et François Ozon dit lui-même, pourtant, dès les 10 premières minutes, je vous ai donné toutes les clés du film.
Ah oui, ça c'est sûr.
Oui, de façon, à travers des plans de cinéma, des choses qu'il faut décoder, bien sûr, mais qu'on peut comprendre qu'à posteriori, général, oui.
Je vais m'écouter Olivier ou bien Mathieu. Vous avez vu le film ?
Oui, en ce qui me concerne, Elie et Astrid ont très bien résumé effectivement ce qu'est ce film. Ce n'est peut-être pas le meilleur film de François Ozon, mais c'est effectivement un réalisateur que moi j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui n'hésite jamais à choquer, à déranger, à interpeller le spectateur. Il a un nom de famille qui est extraordinaire, Ozon, et effectivement il ose quasiment dans chacun de ses films.
Et vous osez les jeux de mots aujourd'hui.
Oui, y a de quoi, on a matière à réflexion.
Perches qui sont tendues.
Oui. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, c'est à nouveau un sujet délicat qu'aborde Ozon. Et globalement, je trouve qu'il le fait quand même pas mal, avec un scénario bien retors, comme on peut les aimer, et un dénouement qui est quand même assez spectaculaire en soi.
Et vous dites pas le meilleur film, mais donc dans sa cinématographie qui est pourtant très dense, il le dit lui-même, c'est le film avec lequel il a été le plus loin dans l'outrance et le plus loin dans la mise en scène appuyée. Donc ça, c'est clairement si c'est pas le meilleur, c'est un film en tout cas très important dans sa filmographie qui compte quand même au moins 17 films, je pense. Un film par an depuis 20 ans.
Quasiment, oui, c'est sûr.
Vous avez vu le film, Mathieu? Vous n'avez pas vu?
Non, c'est sûr que formellement, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a intéressé et qui m'a plu le plus, c'est vrai, dans le film. C'est plus dans le propos et la façon, dans le scénario, que moi, je suis moins convaincue quand même. Je trouve que on est intrigué assez très vite. Et puis finalement, il y a cette espèce de ça monte. Et puis la résolution, sans la dévoiler, moi, m'a pas convaincue. Et puis le côté, effectivement, je suis d'accord quand Astrid, tu dis qu'on sent qu'Ozon, c'est vrai, après, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser avec le spectateur. Et moi, parfois, ça m'a dérangé parce que ça m'a empêché de rentrer dans le film parce que je sens Ozon qui provoque, notamment voilà, sur les propos sur des questions de domination ou de soumission, sur la sexualité féminine, sur certains aspects qui, bon, voilà, me convainquent moyennement. Et je sens Ozon qui cherche à me provoquer là-dessus. Et donc, ça me. J'accroche pas.
On a senti des critiques divisées. Moi-même, j'ai vu le film, j'étais à la fois enthousiasmé et irrité quand j'ai vu le film. J'ai vu deux fois. Et je suis partagé par ça. Donc, je fais un très mauvais jeu de mots pour ceux qui ont vu le film, jusqu'au coup d'éclat final.
Ouais. Et moi, je dois dire que j'ai été très amusée aussi par le film, parce que parfois, on se demande si on n'est pas face à un gros nanar. Hein, parce que c'est un peu invraisemblable. Hein. Il y a des moments où on ne sait pas si c'est fait exprès, mais c'est très drôle, parce que ce n'est pas crédible du tout.
Non, je pense que c'est fait exprès.
Mais comme j'ai dit,
vraiment,
il ose.
Ouais, y a des trucs où... Voilà. Mais c'est voilà, décider si ça donne envie ou pas d'aller le voir.
En tout cas, il est en salle depuis mercredi et on va faire une petite pause musicale. Elle m'a été proposée, ces montages. Je ne sais pas s'il faut le prononcer autrement en anglais. C'est un extrait du film Swiss Army Men, un film assez surprenant qui est passé au BIF, qui a eu le prix du public au BIF, je crois. Et donc, c'est Mathieu qui n'est pas là, mais qui m'a dit, tiens, tu pourrais passer ça dans les... Pas notre Mathieu Reinhardt, mais Mathieu, notre infographiste. Retrouvons nos invités pour la suite de l'émission consacrée au Festival de Cannes, 70e, qui désire parler, poursuivre la conversation. On a échangé sur Square et sur le film de François Ozon. Est-ce que vous avez envie de parler d'un autre film ?
On peut poursuivre le palmarès, enfin la décortication du palmarès. Oui, on peut parler d'interprétation masculine et féminine. Alors dans le prix d'interprétation féminine, c'est l'actrice Diane Kruger qui l'a eu cette année pour In the Fade, c'est ça, hein, le film de Fatih Akin. Donc l'actrice, c'est son premier rôle en allemand. C'est une actrice allemande à l'origine, mais qui s'est surtout fait connaître via du mannequinat, via le fait d'avoir épousé Guillaume Canet jadis. Et puis quand même après, elle s'est lancée dans sa carrière au cinéma, dans des films plutôt dans des blockbusters hollywoodiens, si ma mémoire est correcte.
Dans Troy,
j'allais dire, voilà, Troyes. Notamment, et là c'est son premier rôle en allemand pour donc Fatih Akin. Qu'on connaît pour des films comme De l'autre côté, Soul Kitchen, qui revenait en compétition. Et c'est l'histoire d'une femme, en gros, qui perd sa famille dans un attentat et qui va se battre pour survivre et pour obtenir justice et puis pour se venger. C'est un film assez intense qui a aussi beaucoup divisé, mais en tout cas, même ceux qui n'avaient pas aimé le film. Parce que voilà, certains trouvaient qu'il était, qu'il tirait un peu trop tire l'arme, qu'il était un peu démonstratif. Mais même ceux-là, dans mes souvenirs, ils avaient trouvé que voilà, que le prix d'interprétation lui revenait largement. Et je pense que c'était pas une surprise. On était tous, enfin la plupart, en tout cas, pensaient que c'était pour elle. Et moi, j'étais aussi satisfaite.
C'est vrai que dès la sortie de la séance, la rumeur commençait sur Diane Kruger, prix d'interprétation. Moi, j'ai quand même un petit peu l'impression, enfin, j'avais le même avis en sortant du film, mais en fait, j'avais un petit peu l'impression qu'elle allait gagner par défaut. On est dans une année où il n'y a pas beaucoup de grands rôles féminins.
C'est vrai.
Éventuellement, il y aurait pu avoir un prix d'ensemble pour le film de Sofia Coppola, mais il n'y a pas vraiment de premier rôle, c'est vraiment un film choral. Du coup.
Sinon, il y avait aussi dans le film de Sergei Loznitsa, Une douce créature, c'est une femme quand même qui, voilà, bon, elle a trois mots dans trois heures de film, en gros, mais c'est ça qui est impressionnant. Du personnage, c'est un personnage très fort. Et à part, pour moi, c'était elle ou Diane Kruger, effectivement. Mais
je trouve qu'elle ne l'a pas volé par rapport au reste de la compétition, mais disons que je n'ai pas été époustouflé par sa performance. Je me souviens l'année dernière ou il y a deux ans, je crois que c'était l'année dernière, elle était venue présenter Maryland à un certain regard. Mm-hmm. Film qui est largement passé inaperçu et dans lequel elle donnait une performance, je trouve, tout aussi valable et intéressante.
Donc, je trouve que là quand même, Maryland, moi j'avais, pour avoir vu le film, c'est effectivement, c'était un film où effectivement elle livrait une performance assez intense, c'était un film très tendu, mais là j'ai vraiment l'impression qu'elle porte quand même à bout de bras du début jusqu'à la fin, elle perd tout, elle se tape le procès, après il y a le, enfin voilà, elle pleure beaucoup, c'est très dur, enfin j'ai l'impression quand même que c'était une, effectivement il n'y en avait pas beaucoup cette année, et c'était une des rôles féminins qui se détachait clairement. En plus, on l'a vu vraiment, c'est l'avant-dernier film qu'on a vu, c'était vraiment en fin de festival, le palmarès approchait, et elle s'est clairement, enfin jusque-là on n'avait pas vraiment eu de et donc du coup, enfin voilà, sa performance est clairement détachée, quoi.
Oui, effectivement, je crois que c'était un palmarès attendu au niveau de l'interprète féminine. Je pense aussi au niveau de l'interprète masculin, on peut en parler juste après. Joaquin Phoenix, effectivement, dès la sortie de la salle, la rumeur s'est très vite propagée qu'il aurait lui aussi le prix d'interprétation.
C'était le dernier film pour le coup. Plus, et c'était vraiment les deux derniers films qu'on a vus.
C'était le dernier film. Donc c'était des prix attendus, mais j'ai presque tendance à dire peut-être trop attendus, effectivement. Comme l'a dit Ellie, j'étais moi beaucoup impressionné par la performance de l'actrice dans Une douce créature, dont malheureusement j'ai oublié le nom.
Oui, malheureusement, c'est. Voilà. Un nom russe qu'on ne connaît pas.
C'est un nom russe, mais elle livre une prestation tout en retenue dans ce film. Elle parle très très peu et justement, je trouve qu'elle a une performance d'actrice qui est assez remarquable, qui pour moi aurait mérité aussi un prix d'interprétation féminine, même si le film en lui-même n'est peut-être pas complètement abouti et réussi. La prestation de cette actrice-là, en tout cas, moi, m'avait fortement impressionnée.
La présence silencieuse qu'elle a dans ce film aussi loufoque et... Ouais, c'est vraiment hyper impressionnant.
Mais je trouve que pour le coup, au moins, je sais pas s'il vaut mieux avoir un prix attendu comme Diane Kruger où ça nous a pas surpris, ou avoir, comme l'année dernière, un prix d'interprétation féminine qui sort de nulle part, que nous, personne n'allait venir. C'était l'actrice de Marosa. Marosa, la comédienne du film de Brillante Mendoza, qui a porté le même nom d'ailleurs, Marosa. C'est vrai qu'on aurait pu s'y attendre parce que le film porte son nom et qu'elle a un rôle important, mais là pour le coup, quand ils ont annoncé ça au palmarès l'an dernier, on est tous descendus, tombés de notre siège, on n'y pensait pas du tout. Donc pour le coup, là, l'année d'après, on est vraiment dans quelque chose où on s'y attendait, quoi. Et pour Joaquin Phoenix, je pense que beaucoup s'y attendaient, mais pas lui, en tout cas, parce qu'il n'était pas chaussé
en,
voilà, il n'était pas en tenue de soirée.
Il était en Converse. Quand on a annoncé son nom, il regardait autour de lui comme si il venait de se réveiller. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a touché un peu l'épaule en disant « Vas-y, c'est pour toi, tu peux y aller ». Mais je trouve aussi que c'était quand même moi personnellement j'ai trouvé le film de donc Lynn Ramsey, le film pour lequel Joaquin Phoenix a été primé, You Were Never Really Here, qui est un film où Joaquin Phoenix joue un espèce de voilà de ex-enfant blessé devenu justicier au marteau en gros, un espèce d'homme taciturne comme ça qui en gros va sauver des petites filles de griffes de prédateurs et qui débarque dans des maisons avec un marteau et casse la gueule à tout le monde. C'est un film très intense dans sa mise en scène et moi j'ai trouvé que c'était quand même un film très très prenant. Donc moi j'ai trouvé que le prix était mérité, je sais pas pour vous.
Moi j'ai trouvé ça bidon. J'ai trouvé ça chiant au possible. Maintenant j'ai trouvé l'idée intéressante donc de retirer un peu tout le contexte, tout le contexte qui permet de comprendre où qui il est, où il vit. Donc je trouvais l'idée originale. Après je me suis vraiment ennuyée de A à Z. Ah, je suis pas du tout entrée dans le film. Je trouvais ça assez m'as-tu vu et que ça menait nulle part, quoi.
J'avoue avoir ressenti la même chose. C'est un film dont j'ai pas du tout perçu l'intensité. Au contraire, moi, il m'a semblé qu'il manquait énormément de rythme. Et quand j'ai entendu les commentaires élogieux autour du film, j'ai pas du tout partagé le même sentiment. La prestation de Joaquin Phoenix est très bonne, bien entendu. Mais bon, en dehors de ça, le film, pour moi, n'est...
Certains ont mis en valeur Robert Pattinson dans un film de deux frères, improbable.
Bah pour le coup, moi, je trouve qu'il y a des points communs entre le film You Are Never Really Here de Lynn Ramsey, donc où Joaquin Phoenix a gagné le prix d'interprétation, et Good Time des frères Safdie, où effectivement, là aussi, Robert Pattinson était pressenti pour peut-être avoir le prix d'interprétation, parce que c'est l'histoire de deux mecs paumés, quoi, en gros, mais je trouve, et qui essayent de s'en sortir, c'est un peu des losers magnifiques, un petit peu, et qui ont un passé un petit peu douloureux, et qui ont voilà des aléas avec la justice. Mais les films, dans leur thématique, sont similaires, mais après, dans l'exécution, n'ont rien à voir. Et moi, j'ai trouvé que, justement, le film de Lynn Ramsey était beaucoup plus travaillé au niveau de la tension dramatique, au niveau des informations qu'on a sur le personnage, sur le passé du personnage, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, il y a un montage assez nerveux comme ça qui nous propulse un petit peu dans le passé de Joaquin Phoenix. Il y a la musique aussi qui rentre et qui sort, qui intervient. Et je trouvais que autant la musique dans le film Good Time des frères Safdie, pour le coup, j'ai rien à dire, je l'ai trouvée vraiment brillante, autant je trouve que on manque beaucoup plus d'informations sur le personnage de Robert Pattinson, qui pour le coup, il se balade dans cette espèce d'univers, on a un peu des informations sur l'action, mais les frères Safdie ont dit eux-mêmes qu'ils ont énormément écrit leur personnage, de tout ce qui s'est passé dans leur vie et dans leur passé, et ça se ressent pas du tout pour moi dans le film, alors que chez Lynn Ramsey, on sait quand même un petit peu plus... ce qui se passe.
Oui, Olivier. Alors c'est amusant parce que j'ai l'avis exactement contraire.
Moi aussi, tout à fait.
Alors
oui.
Ça, c'est...
Et, l'inverse.
Et alors justement, je le gardais pour tout à l'heure, le film des frères Safdie, Good Time, je le gardais en coup de cœur. Parce que ça, pour moi, ça a été vraiment un de mes coups de cœur du festival. Un film bien barré, complètement déjanté, comme on aime en voir en sélection officielle pour sortir un petit peu du train-train quotidien. Et justement, Robert Pattinson, il est extraordinaire dans ce film. En braqueur minable, qui en plus... entraîne sans scrupule son frère handicapé mental dans ses sales combines. Et ce film, justement, il est d'un rythme fou. Je me suis pas ennuyé une minute. Et quand le générique de fin arrive, je me dis « Ah mince, c'est déjà fini, quel dommage !» Et parallèlement, justement, à « You Were Never Really Here », dont on peut effectivement faire un parallèle entre les deux, autant j'ai pas ressenti l'intensité du film de Lynn Ramsey, autant je l'ai ressenti dans le film des frères Safdie. On parle de Robert Pattinson, qui aurait pu avoir le prix d'interprétation. Mais alors, on peut dire la même chose aussi pour Ben Safdie, qui est un des deux frères réalisateurs et qui joue le rôle du frère handicapé mental, qui livre lui aussi une prestation. Mais alors là, vraiment...
On le voit pas assez.
Ah non, mais le peu qu'on le voit, on s'en souvient en tout cas.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie folle dans ce film. Et il y a cette scène incroyable. D'ailleurs, j'adore. C'est un personnage secondaire que Robert Pattinson a embarqué avec lui en pensant que c'était son frère, mais donc à l'hôpital, il a confondu. Et donc, dans la voiture, ce personnage commence à raconter une anecdote. Il raconte sa soirée de la veille. Et là, on part dans un délire fou, alors que c'est le personnage secondaire, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais on a vraiment un nouveau récit dans le récit, et c'est comme ça pendant tout le film, qui est en plus tourné tourné de nuit principalement, donc on a des jeux de lumière, des reflets avec la musique, mais ça j'en parlerai tout à l'heure parce que je sais qu'on t'a parlé d'un coup de cœur, donc j'en parlerai après. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette... C'est la première fois, en tout cas moi, que j'avais l'impression d'avoir devant moi, donc la première fois depuis le début du festival, que j'avais l'impression d'avoir devant moi un film d'une nouvelle génération de cinéma, quoi. C'est pas un grand film, mais il m'a scotché et c'est... ouais, nouveau.
Oui, Mathieu.
Juste dire aux auditeurs que s'ils restent jusqu'à la fin, on leur promet de trouver un film sur lequel on est tous d'accord.
Ah non, c'est pas intéressant. Ça.
C'est pas intéressant.
On parlait d'audace tout à l'heure avec la Palme d'Or à The Square. Là, je trouve justement que les jurés ont singulièrement manqué d'audace en ne donnant aucun prix à Good Time.
Oui. En tout cas, Robert Pattinson, de ce qu'on dit, sort vraiment de son rôle de vampire flamboyant qu'il avait.
Ah, mais oui.
Oui, mais
il a contacté
les frères Safdie après avoir vu leur film précédent, Heaven Knows What, Mad Love in New York. Pour la version française du titre. Et il les a contactés en leur disant, j'ai vu votre film, je fais ce que vous voulez, le prochain truc que vous voulez faire, c'est avec vous. Et donc ils ont construit, en fait, ils avaient un autre projet de film qu'ils ont mis de côté, et ils ont construit un nouveau film autour du personnage de Robert Pattinson.
Qui joue justement dans Swiss Army Man, Robert Pattinson, le rôle d'un cadavre pétomane. C'est vous dire qu'il sort vraiment des canevas.
C'est Robert Pattinson ou c'est pas Daniel Radcliffe?
Daniel Radcliffe, excusez-moi, vous avez raison.
Enfin, Harry Potter aussi... avec Twilight,
oui,
quand même.
Non.
Confondez les magiciens et les vampires.
Non, vous avez raison. Donc, voilà, donc je fais amende honorable. Et de fait, il sort lui aussi de ses rôles habituels.
Tout à fait.
Une autre, oui.
Oui, bah, peut-être pour suivre le palmarès, dire un mot de The Big Wild, les proies en français de Sofia Coppola. The Big Wild, comme disent nos camarades français, qui a eu le prix de la mise en scène.
Un remake d'un film
de Don Siegel avec Clint Eastwood. Et j'ai trouvé pour le coup que le prix de la mise en scène était exactement le prix qu'il lui fallait. Sofia Coppola est une réalisatrice qui a amené un énorme vent de fraîcheur il y a déjà une bonne dizaine d'années avec Virgin Suicide et puis surtout Lost in Translation. Et puis, pour ceux qui étaient clients, ses films suivants étaient toujours délicieux, comme moi, je suis client, hein, mais il est vrai qu'elle tournait un petit peu en rond, ouais, toujours hein. Dans les mêmes archétypes, toujours dans les mêmes schémas, le même genre de mise en scène.
Somewhere, qui pour moi était un peu...
Enfin, ne lançons pas un débat sur Somewhere. mais ici, je trouve qu'elle s'est, pour le coup, vraiment renouvelée, remise en question. Je pense que ce film ouvre une nouvelle ère, alors c'est un grand mot, mais dans sa filmographie. Et sans doute qu'elle a eu besoin d'aller faire un remake, justement, du film de Don Siegel, d'aller prendre le matériel de quelqu'un d'autre pour briser un petit peu sa routine. Et je trouve qu'elle fait ça très, très bien. Le titre, en fait, est très mal choisi en français, parce que ça s'appelle Les Proies, qui est le titre du film original aussi en français. Mais The Big Wild, qui est très difficile à prononcer, mais si on le traduit, ça veut dire la personne qui est séduite, la personne qui est sous le charme. Et c'est un mot qui est asexué. Donc ça peut aussi bien concerner ce soldat confédéré qui se retrouve prisonnier un petit peu d'une école de jeunes filles, que les jeunes femmes et la directrice, interprétée par Nicole Kidman, qui tourne autour de lui. Le film est plein d'ambiguïté. On ne sait jamais justement qui est la proie, qui est la personne séduite, qui est le plus en danger. Est-ce que c'est ce soldat qui est immobilisé, qui est blessé, ou bien est-ce que c'est lui qui représente le mal qui rentre dans cette maison? Quelqu'un a demandé lors de la conférence de presse à Sofia Coppola si c'était un film féministe ou un film misogyne. Et c'est vrai que on peut voir le film sous les deux angles.
Oui,
et elle a refusé de répondre. Elle a refusé de trancher. Et je trouve ça génial parce que ça fait des films très jouissifs à regarder. On rit aussi, mais on rit noir, quoi, devant l'ironie de certaines situations, et une mise en scène très posée, très très atmosphérique, toujours loin des personnages qui du coup restent assez mystérieux. On n'arrive jamais à les percer parce qu'on a l'impression qu'on peut pas les toucher, qu'ils sont un peu irréels. Donc voilà, je pense qu'on l'attendait pas trop au palmarès. La presse n'en parlait pas énormément. Sofia Coppola n'était pas là, du coup on l'a pas vu monter les marches avant la cérémonie, et c'était encore plus une surprise qu'elle a appris, mais personnellement j'en étais très content.
Brièvement, avant la deuxième pause, Olivier.
Mais les auditeurs et Mathieu vont être très déçus parce que c'est pas encore sur ce film-là qu'on va être d'accord. Moi, au contraire, je ne peux que conseiller aux cinéphiles de visionner le film original de 1971 de Don Siegel avec Clint Eastwood. Un film beaucoup plus incisif, beaucoup plus subversif, dont Sofia Coppola, 45 ans plus tard, n'a réussi qu'à tirer un remake édulcoré, beaucoup plus fade, probablement parce qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on ne peut plus filmer comme on les filmait il y a 45 ans. Et pour moi, ce film vaut essentiellement pour ses interprètes. C'est un beau casting, idéal pour le tapis rouge. Pour le reste, c'est un remake inutile.
Voyez les deux.
Et on va une petite pause musicale. C'est True Romance. C'est Hans Zimmer lui-même en live à Orange le 5 juin 2016. C'est deux petites minutes de souvenir d'un film qui m'avait beaucoup marqué. Nous sommes pour la troisième partie de notre émission. Nous retrouvons toujours nos invités. Qui veut prendre la parole pour parler d'un autre film ?
On n'a pas parlé du Grand Prix. On peut parler du Grand Prix. C'est quoi ? C'est médaille d'argent.
Médaille d'argent.
Hein. Sur le podium. Et c'est 120 battements par minute de Romain Campillo qui sortira dans les salles belges le 30 août. Est-ce que quelqu'un, moi j'ai fait le pitch du Fatih Akin, qui veut faire le pitch de 120 battements par minute?
Olivier.
en résumé, ça résume en fait le combat de l'association ACT UP au début des années 90, qui se battait énormément contre les préjugés autour de la maladie du sida, qui à l'époque était malheureusement mortelle dans la plus grande partie des cas. Et donc c'est une évocation fictionnalisée, bien entendu, qui retrace un petit peu ce parcours.
Mais Robin Campillo faisait quand même partie de...
Lui-même était un ancien membre, oui, d'ACT UP.
C'est son histoire qu'il raconte en partie.
Oui, aussi.
C'est pas son histoire, mais c'est quoi il parle, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis ACT UP, en fait, était assez controversé en France à l'époque parce qu'il faisait, justement, c'était du militantisme un peu violent, disons. En tout cas, il faisait des actions très, très fortes et c'était pas sage, quoi, du tout. Ils étaient connus pour balancer du faux sang dans des interventions, de s'allonger par terre. Voilà, donc ils étaient minoritaires et ils étaient assez contesté, mais je pense que c'était une période très, très intense de l'activisme.
L'intrigue du film est un peu double parce qu'il y a d'une part la lutte d'ACT UP et puis il y a en parallèle, et ça finit par prendre toute la place, une histoire d'amour entre deux militants dont un est séropositif et développer la maladie, et puis je vais pas spoiler la fin, mais on pleure beaucoup.
Il y a clairement deux parties dans le film.
Il y a clairement deux parties dans le film et pour moi c'est sa faiblesse et j'en profite pour prendre la parole d'abord parce que je pense que vous allez en dire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de bien à en dire, mais pour moi malgré tout la structure quand même est boiteuse. Et cette deuxième partie qui, à un moment, bouffe complètement l'aspect politique du film qui est très présent au début et qui, moi, m'avait vraiment passionné, voir comment fonctionne cette association en interne, comment ce sont des gens qui ne sont pas préparés pour la lutte, qui ne sont pas des politologues, des philosophes et qui arrivent à s'organiser entre eux, voir comment ils fonctionnent, comment les luttes internes, je trouvais ça vraiment passionnant. Et puis après, quand on tombe vraiment dans l'histoire d'amour tragique, c'est beaucoup plus classique. Alors c'est vraiment interprété avec beaucoup de talent et c'est bien filmé, mais j'ai trouvé ça un poil larmoyant quand même. On sent qu'on veut nous tirer les larmes sur un sujet qui mérite qu'on verse des larmes, c'est pas la question, mais je trouvais ça en fait beaucoup moins original et finalement beaucoup moins marquant que la première partie du film.
Eh bien, vous vous trompez, on est quand même d'accord, en fait, parce que je suis d'accord avec le fait que la première partie est vraiment beaucoup plus intéressante. Le film, le lendemain de sa projection, a fait la une dans la presse, parce qu'on avait entendu les sanglots des journalistes dans les salles et que ça avait
la
provoqué
presse française
l'émotion,
beaucoup,
oui, la presse française
faire,
surtout.
Et on peut faire pleurer des journalistes ?
Oui, oui, bien sûr, ils adorent ça, se faire remarquer.
Fixe, là.
Mais donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette étude anthropologique, finalement, de comment s'organisent les rapports collectifs,
oui.
Parce que ça pourrait être sur n'importe quel sujet, finalement, pas forcément sur le sida, c'est parce que c'est encore actuel aujourd'hui, là c'est dans les années 90, mais encore aujourd'hui on peut se demander comment on harmonise les actions, comment on harmonise les débats, comment s'organisent les militants.
Oui, comment fonctionnent les altermondialistes,
voilà.
Aujourd'hui,
oui.
C'est vrai qu'on pourrait faire un même film dans ces milieux-là aussi.
Mais je trouve que c'est aussi, je suis d'accord avec ce que vous dites, et moi c'est un petit peu la structure, c'est la structure narrative un peu répétitive qui parfois effectivement m'a désarçonnée et qui a fait que je ne suis pas sortie déshydratée du film. C'est que parfois je trouvais qu'il y avait beaucoup, il y avait les réunions, puis les actions, puis ils sortaient faire la fête, et puis on était à nouveau dans une réunion, puis dans une action, puis bon, c'est très très, on sent, c'est vraiment la révolution minute par minute, comment ça s'est fait, comment on s'est organisé, et je trouve qu'il y a à la fois un côté fascinant et à la fois un côté qui peut tenir à distance ceux qui vont pas vraiment comprendre l'utilité, mais je trouve que le mouvement, et Robin Campillo l'a expliqué en conférence de presse, et je trouve que ça m'a éclairé sur comment il a voulu structurer son film, même si je comprends que c'est ce qui pose problème, c'est que lui, en gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il a voulu vraiment d'un côté montrer le collectif pour le coup, et de vraiment montrer un mouvement collectif et comment on s'organise et comment ce mouvement va vivre. Et du collectif va naître l'individuel et vont naître les petites histoires de chacun. Donc il raconte la grande histoire et un peu l'organisation. Et puis après, de la grande histoire va naître la petite, et qui est l'histoire d'amour et quelque chose de plus. Et on passe là, du coup, on arrive à l'intime. On commence avec vraiment le groupe et les actions politiques pour finir sur l'intime, vraiment au plus profond. Donc ça m'a éclairé, en tout cas, ça ne veut pas dire que ça fait que le film est... Voilà, qu'on adhère, mais...
Ça a l'avantage de faire un peu le tour de la question, c'est-à-dire que s'il veut parler du sida et de la lutte contre le sida, on a le côté politique, on a l'activisme, et on a la maladie...
Et l'émotion.
C'est drôle parfois, quand ils sont avec leur slogan « des molécules pour qu'on s'encule », c'est quand même marrant, quoi.
Oui, mais non, mais c'est ça, cet aspect très humain et quotidien de la lutte rend le film très, très vivant.
Non, on ne va pas couper, mais c'est inhabituel sur RCF, on ne coupera pas, c'est entre guillemets tiré du film.
C'est pas moi qui l'ai dit, je me fais citer.
Normalement, on parle pas de molécules à l'antenne.
D'accord,
s'il te plaît.
C'est vrai que...
Merci Mathieu de recadrer. Olivier, encore un mot.
Oui, je pense que c'est un film qui fait œuvre utile. Et dans cette optique-là, le grand prix qui lui a été attribué me semble être une récompense tout à fait logique. Beaucoup de journalistes l'ont encensé à la sortie de la vision en disant que c'était une palme d'or possible. Je pense que là, ça aurait été plutôt une palme d'or consensuelle qui aurait récompensé un sujet très important plutôt qu'un film dans son entièreté. Mais dans cette optique-là, le grand prix, pour moi, me semble très bien.
Comme l'année dernière avec le Ken Loach, par exemple. C'était aussi un film un peu consensuel.
Moi, personnellement, l'année dernière, j'avais beaucoup aimé le Ken Loach.
Moi aussi, ça fait deux films sur lesquels on est d'accord. Oui.
Allez, trois, voilà.
Un autre film dont vous souhaitez parler
La seule chose, globalement, c'est vrai que pour une fois, c'est étonnant, parce qu'une fois la presse et le jury sont plus ou moins d'accord, alors que en général c'est vraiment complètement opposé, donc pour une fois on peut dire c'est assez de façon surprenante, on est globalement assez d'accord, sauf quand même moi le premier prix de la soirée qu'ils ont attribué, qui est le prix du scénario. Alors le prix du scénario a été attribué ex aequo à donc You Were Never Really Here de Lynn Ramsey, qui a eu aussi par après le prix d'interprétation masculine, et Mise à mort du Sar Sacré de Yorgos Lanthimos, et
qui avait fait The Lobster,
qui avait
Camille
fait The Lobster
auparavant.
Et qui avait gagné qui s'en a un peu mieux tiré que le prix du scénario l'année où il avait eu Lobster, c'était le grand prix il me semble, ou le prix du jury. Et là alors ce prix ex aequo, déjà les ex aequo de base ça me crispe, mais ex aequo prix du scénario pour ces deux films qui pour moi aucun des deux c'était pas du tout l'élément prépondérant pour moi, et de deux je comprends pas pourquoi donner à Lynn Ramsey ex aequo ce prix du scénario vu qu'après elle a eu le prix d'interprétation masculine, donc Vraiment, moi, ça, c'est vraiment le seul prix du Palmarès que je n'ai absolument pas compris.
C'est là qu'on voit les limites et aussi à quel point le scénario est souvent négligé dans le processus cinématographique, y compris par un jury composé de professionnels, mais surtout de comédiens. Alors que le scénario est capital et ces deux films, et on n'a pas encore parlé du Cerf Sacré, mais je trouve que c'est un film glaçant et très impressionnant, mais c'est un film de mise en scène. L'histoire qu'il raconte est en fait tout à fait banale si on la met à plat.
Un mythe grec qu'on reprend.
Oui, c'est un mythe grec qui tient en deux.
C'est l'exécution,
deux lignes,
c'est l'exécution du film qui fait sa valeur après qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais donc c'est vraiment pas un prix du scénario et ça sent le prix de compromis. Quelqu'un voulait qu'il soit au palmarès et alors on lui fougue le prix du scénario, mais c'est un peu insultant pour le film et pour les scénaristes en fait.
Oui. Enfin, ben ouais,
pas les scénaristes du film, mais les scénaristes en général, je veux dire.
Oui, effectivement. Mais est-ce que pour le coup, est-ce qu'il y a un film qu'on aurait vu en prix du scénario cette année?
Parce que j'allais vous poser la question.
Moi, c'est vrai que il y en a aucun. C'était surtout des films de mise en scène qu'on a vus. Je trouve que c'est des films qui proposaient des choses formellement intéressantes, qui nous ont interpellés par leur thème ou par leur façon de le raconter. Mais
une histoire bien écrite, est-ce que vous en avez trouvé une?
C'est une excellente question.
C'était surtout des films soit portés par leurs personnages, soit portés par leur mise en scène, mais pas vraiment.
Des films aussi où il est parfois difficile de savoir. Par exemple, il y a un film dont on n'a pas encore parlé qui est Le Jour d'après, The Day After de Im Sang-soo, qui est un film, je trouve, remarquablement bien écrit, mais qui en fait est écrit au jour le jour par le réalisateur. Donc, il n'est pas improvisé par les acteurs, mais chaque jour, le réalisateur écrit les nouvelles scènes en fonction de ce qui s'est passé la veille. Et donc, est-ce que c'est vraiment un prix du scénario? C'est une façon, en tout cas, très peu conventionnelle de faire un scénario, mais ça aurait pu être intéressant de récompenser une méthode différente.
Là aussi, je pense qu'il y a des gens qui se seraient arraché les yeux de donner le prix du scénario à ce que beaucoup considéraient The Day After comme la palme, d'après ce que j'ai... Dont toi, Mathieu,
dont moi, effectivement. Pour en dire un mot, c'est vraiment un film fascinant parce qu'il est dans l'épure totale, mais c'est du pur cinéma aussi. C'est-à-dire qu'on fait juste confiance au fait que filmer quelque chose et filmer des gens, c'est déjà magique et qu'on n'a pas besoin de leur faire des choses incroyables ou d'avoir des effets spéciaux. Ici, on est vraiment dans... que des scènes quasiment en plan fixe, en noir et blanc, avec des gens qui discutent souvent d'adultère. Mais vous êtes prévenu, mais en même temps, vous n'êtes pas prévenu parce que je vous promets, amis auditeurs, qu'on ne sent pas le temps passer et qu'on rit beaucoup, on est touché. C'est l'histoire, juste pour planter le décor et parce que je pense qu'il donne envie, d'un homme, un éditeur d'une cinquantaine d'années, dont la femme le soupçonne d'avoir une affaire. Et au début du film, elle le confronte, elle lui dit « Bon, c'est qui cette femme ?» Et lui s'enfonce dans le mensonge et il fait ça très très mal en disant « mais il n'y a personne, mais comment oses-tu » etc. Et puis on se rend compte que sa maîtresse, c'est sa secrétaire au travail et sa femme s'en rend compte aussi. Elle arrive à son bureau par surprise, elle surprend la secrétaire, elle lui fout une gifle. Sauf que entre-temps, il a viré sa maîtresse et il vient d'engager une nouvelle secrétaire qui donc se retrouve prise au milieu de cet imbroglio, qui vient de recevoir une gifle de la femme de son patron
sans savoir pourquoi.
Qui ne comprend pas pourquoi. et le patron se retrouve obligé de déballer toute sa vie privée à sa secrétaire, de lui expliquer ce qui se passe. Et donc ça se passe autour de... Ils vont au restaurant, ils boivent énormément, le mec s'apitoie sur son sort, mais c'est très drôle, c'est très jubilatoire. Et puis parfois c'est aussi très touchant. On est vraiment dans de la chronique humaine comme Im Sang-soo, c'est difficile ces noms, c'est le faire. Un film de pur plaisir de comédien et de situation avec, je pense, un très très bon scénario, mais peu conventionnel, mais ça aurait pu être un prix du scénario. Guettez-le parce qu'il risque de passer très 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 vite s'il sort en salle.
Oui, on n'a pas encore de date de sortie.
Non. Il est sorti en France, donc on l'a dit le 7 juin, mais pour la Belgique.
À surveiller en DVD
éventuellement. Nous allons terminer cette première partie où nous échangeons sur les films que nous avons vus sur Cannes avant de passer à la dernière partie qui auparavant s'appelait les 5 dernières minutes. Il restera 5 minutes pour donner un coup de cœur ou un coup de gueule, mais qui dorénavant va s'appeler Amicalement Nôtre. dernière partie de l'émission, amicalement nôtre, de référence donc à cet extrait d'une célèbre série, mais qui était repris dans un film que je trouve remarquable de Bonello. C'est peut-être pas la vie de tout le monde, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'était Nocturama, mais occasion pour vous, les invités journalistes, de donner un coup de cœur ou un coup de gueule par rapport à un film, par rapport à l'événement, par rapport au jury. Qui commence ?
Peut commencer, oui. Si vous êtes, parce que je vous ai parlé précédemment de la musique du film des frères Safdie, donc Good Time. Donc c'est une bande sonore où on comprend dès le début qu'elle va être un personnage du film. Et la musique est composée par Oneotrix Point Never, avec dessus la voix de Iggy Pop. Il faut savoir que cette musique a d'ailleurs remporté le Cannes Soundtrack 2017, donc c'est un prix qui récompense la meilleure bande originale parmi les films en compétition officielle. Et voilà, moi c'est vraiment mon coup de cœur du festival. Déjà le film est un coup de cœur, mais alors la musique, voilà, ça c'est vraiment plaisir.
Merci beaucoup Astrid. Qui veut prendre la parole ? Élie ?
Un homme pour alterner.
Un homme pour alterner. Mathieu.
Un homme pour. Je suis l'alternance.
Bien.
Moi, j'ai pas mal traîné aussi cette année au marché du film, au Festival de Cannes. Il faut savoir que à côté du festival et de la sélection officielle, il y a un marché où les producteurs peuvent présenter leurs films récents pour essayer de séduire des acheteurs, des distributeurs dans le monde entier. Et à cette occasion, j'ai vu un film que je conseille à nos auditeurs de surveiller. Je ne sais pas s'il sortira jamais ici, mais figurez-vous qu'en Finlande, ils viennent de faire leur premier film de super-héros.
Non.
Et ça s'appelle Rendell. Et Rendell, les méchants ont assassiné toute sa famille et il est très très fâché. Et en fait, la vraie surprise, c'est que Rendell, c'est un film qui a été financé en partie par crowdfunding. Le réalisateur a mis 12 ans à le monter. Enfin, c'est vraiment un projet de cœur. Et on s'attendrait à quelque chose de très maladroit, mais de touchant. Et en fait, le film tient vraiment la route. Il est complètement dans les clichés et il s'amuse avec les figures du genre. Mais il fonctionne très très bien. C'est un film de super-héros très très noir, très violent. Et très amusant finalement.
Élie.
Moi je vais parler du film qui a gagné la Caméra d'Or cette année. C'est la Caméra d'Or, donc c'est le prix qui récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues, qui a son propre petit jury, qui était présidé cette année par Sandrine Kiberlin. Et ils ont choisi de primer Jeune femme de Léonore Serrail. Donc Léonore Serrail, une réalisatrice française et qui a tourné avec Laetitia Doche, qui est une comédienne qu'on a pu voir dans La bataille de Solferino de Justine Triet, et qui incarne donc Paula, qui est cette jeune femme du film. Et je trouve que c'était un film assez, enfin voilà, c'est un film qui commence premier plan, Paula se pète le front contre la porte de chez son ex parce que son ex veut pas la laisser rentrer et qu'ils ont passé 10 ans ensemble. Et donc direction les urgences avec le front ouvert. Enfin voilà, c'est un film qui d'entrée de jeu, il se cogne aux choses et comme Paula, elle se cogne à la vie. Il lui arrive plein de sales trucs. Elle essaie de retrouver son indépendance justement et de se reconstruire, mais elle a un côté un peu barge, mais gentiment. Enfin, elle rentre pas vraiment dans les cases que la société, essaye de mettre, c'est-à-dire trouver un boulot, se comporter correctement, s'habiller comme si, faire comme ça, pas parler aux gens dans la rue, aux inconnus. Paula, elle s'en fout. Et je trouve qu'elle a une grâce et c'est un film qui est justement très brut et très émouvant et touchant aussi à la fois. Et j'espère qu'on va pouvoir le voir sur les écrans en Belgique bientôt.
Olivier, le mot de la fin.
Alors, deux coups de cœur rapidement. D'abord, Visage, Village, le dernier film de Agnès Varda. Petite dame par la taille, mais très grande dame.
Un documentaire.
Documentaire fictionnalisé, comme Agnès Varda aime les faire. C'est plein de fraîcheur. Elle suit l'artiste JR. C'est un film qui sort bientôt dans nos salles et que je recommande à tout le monde. C'est un peu ce qu'on appelle un feel-good movie. Deuxième petit coup de cœur, un court-métrage qui a été présenté à la Semaine de la Critique, qui s'appelle Les Enfants partent à l'aube, de Manon Koubia. Alors, c'est un petit cocorico national. Manon Koubia est française, mais elle vit en Belgique et l'équipe du film est essentiellement belge. Johan Zimmer et Emma Gilles Rousseau, deux jeunes acteurs de chez nous qui sont à suivre et qui démontrent tout leur talent et toutes les promesses de leur talent dans ce court-métrage.
Je rappelle que nous recevions pour cette dernière émission de l'année Élie Mastérou, Le Métro, L'Avenir, Marie-Claire, Alpha Beta Magazine. Élie, merci.
Merci à toi.
Astrid Janssens de L'Avenir et Pub et les Fiches du Cinéma. Merci Astrid.
Merci pour l'invitation.
Mathieu Reinhardt pour Le Focus Vif. Merci Mathieu.
Merci à tous.
Et Olivier Clincard pour Moustique et Cinéma Belge. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au plaisir de vous revoir.